RFI, 7h30, à Paris, 6h30 en temps universel. Et le journal avec Sébastien Duhamel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. C'est la une, c'est cette visite en Afrique du Sud. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de RDC venus renforcer les liens et venus évoquer également le retrait des soldats sud-africains de l'Est de la RDC. Les appels au calme au Soudan du Sud. De nombreuses chancelleries occidentales s'inquiètent et se mobilisent après le placement en résidence surveillée du vice-président Riek Machar. Le Gabon qui remet la main sur son secteur pétrolier avec le rachat de deux nouvelles compagnies qui rejoignent ainsi le giron de la compagnie nationale. Le sommet Nutrition for Growth qui se refermera aujourd'hui à Paris avec déjà sur la table 27 milliards de dollars promis pour la lutte contre la malnutrition. La littérature afro-caribéenne, une littérature riche et chargée d'histoire, à l'honneur en ce moment des rencontres internationales du livre francophone de Kigali au Rwanda, ce sera notre dossier du jour. Et puis, c'est désormais confirmé, la CAN des moins de 20 ans de football n'aura pas lieu en Côte d'Ivoire, mais en Égypte. C'était dans les tuyaux, on vous explique tout en fin d'édition. La RDC prépare un départ prudent et coordonné des troupes sud-africaines déployées dans l'Est congolais avec un mandat de la communauté d'Afrique australe. Annonce de la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayi Kwamba Wagner, qui était justement en déplacement en Afrique du Sud hier aux côtés également du ministre congolais de la Défense, Guy Kabombo Mwadiamvita. Visite qui intervient à l'heure où Kinshasa cherche par ailleurs à renforcer ses liens avec Pretoria. Retour sur ce déplacement avec Valentin Hugues.
Aux côtés de son homologue sud-africain, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayi Kwamba Wagner, rappelle l'importance de la solidarité entre Kinshasa et Pretoria.
Dans l'une des périodes les plus difficiles pour notre pays, une période qui met à l'épreuve nos relations et nos alliances, vous êtes resté fermement et indéfectiblement à nos côtés, malgré les pertes tragiques que votre pays a subies.
That your country has encountered.
Référence aux 14 soldats sud-africains morts au combat lors de la prise de Goma en janvier. Certains étaient déployés dans le cadre de la mission régionale de maintien de la paix de la SADC. Depuis, la SADC a décidé le retrait progressif des troupes en faveur de plus de dialogue. Ronald Lamola, ministre des Affaires étrangères sud-africain.
Ce retrait ne signifie pas qu'on abandonne la RDC. La décision a été prise par un organisme multilatéral. En tant qu'Afrique du Sud, nous continuons à travailler avec la RDC au niveau bilatéral pour approfondir nos relations sur divers aspects qui comprennent la coopération militaire.
Et la coopération militaire, c'était l'enjeu de cette autre réunion entre les ministres de la Défense congolais et sud-africains, avec pour objectif de renforcer les capacités de défense stratégique entre les deux pays. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Les appels nombreux pour préserver la paix au Soudan du Sud. Au lendemain du placement en résidence surveillée du vice-président Riek Machar, son parti, le SPLM-IO, dénonçait cette situation en affirmant qu'elle signe l'abrogation de l'accord de paix de 2018 conclu avec le président Salva Kiir. Et de nombreuses chancelleries ont également donné de la voix pour réclamer un cessez-le-feu et la libération de Riek Machar. Message envoyé dans un communiqué commun par les ambassades des États-Unis, de l'Union européenne, de la France, des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la Norvège et de l'Angleterre. La diplomatie kényane se mobilise, elle aussi. Le président Ruto a en effet dépêché un envoyé spécial pour le Soudan du Sud en la personne de Raila Odinga. Florence Mieto, il est attendu sur place à Juba dès aujourd'hui.
L'ancien premier ministre kényan Raila Odinga va précéder de quelques jours la délégation du bloc d'Afrique de l'Est, l'IGAD, dont la visite aura lieu jeudi le 3 avril. Dans un communiqué hier, l'organisation régionale écrit, je cite, que si elle n'est pas maîtrisée, la trajectoire actuelle pourrait entraîner l'effondrement du processus de transition et une reprise de la guerre. L'Union africaine a elle aussi mis en garde contre toute action qui pourrait exacerber les tensions et appeler les dirigeants sud-soudanais au dialogue constructif. Une mission du groupe des sages de l'Union africaine va être déployée à Djouba afin de désamorcer la situation. L'accord de paix n'est pas facultatif, il est contraignant, a pour sa part déclaré Yasmine Souka, la présidente de la Commission sur les droits de l'homme de l'ONU au Soudan du Sud. Elle dénonce le non-respect de l'accord comme une trahison envers le peuple sud-soudanais. Hier soir, Riek Machar et son épouse Angelina Teny, ministre de l'Intérieur du gouvernement sud-soudanais, étaient toujours en résidence surveillée. Florence Mietto, Djouba, RFI.
Sur la scène politique du Gabon, les opposants du parti Réagir annoncent qu'ils ne soutiendront aucun candidat pour la présidentielle prévue le 12 avril et censée refermer la transition. Réaction après le rejet de la candidature de son président intérimaire, Michel Ongundulunda. Mais la formation, notons-le, est divisée en interne car une partie de ses cadres soutient les autorités de la transition et la candidature du général Oligui Nguema au scrutin. La campagne, en tout cas, débutera officiellement demain, le 29 mars. Le Gabon, qui souhaite par ailleurs reprendre en main son secteur pétrolier. Après le rachat l'année dernière de la société Assala Energy, l'État vient en effet de racheter deux autres sociétés, la britannique Tullow Oil et la française SMP Afrique, spécialisée dans la maintenance et le forage pétrolier. Ces sociétés rejoignent ainsi la Gabon Oil Company, la Société Nationale des Hydrocarbures, convention officiellement signée hier. À Libreville, Yves Laurent Goma.
Sur le perron du palais présidentiel, Brice Clotaire Oligui Nguema brandit en souriant les deux conventions. Dans le public, on trouve des jeunes écoliers du Britannia militaire de Libreville.
Cette acquisition est l'expression concrète de notre volonté inébranlable de reconquérir notre souveraineté économique. Engagement solennel que j'ai pris devant le peuple gabonais.
La principale opération est réalisée avec Tullow Oil. La société britannique produit 12 000 barils de pétrole par jour. Elle était implantée au Gabon depuis 26 ans. Roald Gouet, directeur général du groupe.
Quelque part, on part avec un peu de tristesse aussi, mais on espère ne pas partir pour longtemps et revenir un jour avec une autre opportunité au Gabon.
Grâce à cette opération, la production pétrolière de l'État passera de 70 à 82 000 barils par jour. Une hausse qui augmente également les revenus de l'État et surtout la souveraineté du pays dans ce secteur des hydrocarbures. L'État renforce aussi ses capacités techniques avec l'achat de SMP Afrique, une entreprise française spécialisée dans la maintenance et le forage pétrolier. Yves Laurent Goma, Libreville, RFI.
Le journal Yaga Burundi, suspendu hier par le Conseil burundais de la communication, organe nommé par le pouvoir et qui régule les médias. Suspension officiellement parce que le ministère de l'Intérieur n'a pas retrouvé l'acte d'agrément dans ses archives et considère que celui déposé au CNC est donc un faux. Les responsables de Yaga Burundi, qui est tenu par de jeunes blogueurs réputés pour leur indépendance d'esprit, ont appris cette décision par les réseaux sociaux. Ils se disent surpris en rappelant que leur association avait bel et bien été agréée en son temps. Déjà 27 milliards de dollars promis pour lutter contre la malnutrition. C'est ce qui ressort de la première journée hier du sommet Nutrition for Growth qui se refermera aujourd'hui à Paris. Un combat pour la paix et pour notre planète, selon les mots du président français hier sur place. Il faut rappeler qu'on parle d'un enjeu vital et d'un fléau mondial qui touche plus de 700 millions de personnes dans le monde et le continent africain est au premier rang. Ces promesses de dons à l'heure de l'assèchement des financements humanitaires tombent donc à pic. Christina Okello.
Avec ses 27 milliards de dollars, Paris dépasse la somme atteinte lors du dernier sommet de Tokyo il y a 4 ans. Tout au long de la journée, les annonces se sont multipliées. Union européenne, Banque mondiale, Banque africaine de développement et philanthropes. L'Afrique n'est pas en reste. La Côte d'Ivoire a promis d'allouer 15% de son budget à la nutrition, soit 240 milliards de francs CFA. Une urgence selon le ministre de la Santé, Pierre Ngoudimba.
Parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même des taux de maladies maternelles qui restent encore élevées. Le taux, donc la prévalence en anémie pour les femmes reste autour de 61%. Nous avons encore 10% d'enfants donc qui ont un retard de petit poids. Donc c'est des éléments qui nous interpellent et pour lesquels nous devons vraiment prendre des engagements par la nutrition pour relever ces défis.
Mais au-delà des annonces, reste la question cruciale. Comment utiliser concrètement cet argent? Au Kenya, le gouvernement mise sur les données pour cibler les actions. Le docteur Dominique Menjo, conseiller à la sécurité alimentaire du président, plaide pour leur financement.
Une fois qu'on a identifié les personnes et recueilli des données sur leurs habitudes alimentaires, mais aussi sur la façon dont les produits ont été cultivés ou élevés, on peut intervenir dès la production, vérifier les engrais, ajuster les nutriments.
Le sommet s'achève ce vendredi, mais le vrai défi commence à peine. Transformer ces milliards en politique concrète, alors que la nutrition reste encore trop souvent le parent pauvre du développement.
Christina Okello. Un rendez-vous littéraire pour notre dossier du jour. Les rencontres internationales du livre francophone de Kigali qui ont débuté mercredi et qui se poursuivront jusqu'à demain au Centre culturel francophone du Rwanda. Et cette année, ce sont des auteurs caribéens qui sont mis à l'honneur, une littérature riche à qui l'on doit beaucoup, Lucie Mouillot.
Quatre auteurs caribéens mis à l'honneur à Kigali, une littérature qui a par le passé largement marqué le continent, affirme Kofi Kwaoulé, écrivain ivoirien.
Pendant longtemps, on a été initié à cette littérature à travers Césaire, à travers Fanon, Maryse Condé qui a passé une partie de sa vie en Afrique aussi. Donc oui, ce contact a toujours existé. Il y a encore des points de rencontre, des histoires communes.
Des histoires communes, de par le lien de descendance des Afro-Caribéens avec les populations africaines, réduites en esclavage et déportées vers les Antilles entre le XVIe et le XIXe siècle. Des racines évoquées dans certains écrits d'auteurs caribéens, Philomé Robert, journaliste et écrivain haïtien.
Vagabondage éphémère, mon personnage Gabriel se retrouve sur le continent africain et ce voyage lui permet de faire connaissance avec sa propre africanité, avec sa propre histoire. Et donc le parcours de Gabriel a permis de faire un certain nombre de recherches sur l'histoire haïtienne-africaine. Ça a été une volonté de ma part que ça soit là.
Pour certains auteurs, les connexions entre le continent et les Caraïbes vont plus loin. Joe Souli, haïtien et américain, a ouvert une maison d'édition à Kigali.
On est ici en Afrique, on fait des connexions. On est en train de bâtir ce réseau d'écrivains caribéens et africains. C'est très important pour nos écrivains caribéens d'origine africaine.
Des échanges entre auteurs, mais aussi avec le public tout au long des rencontres du livre francophone à travers des ateliers d'écriture et des interventions dans des écoles. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Et ces échanges Caraïbes-continent sont importants également pour Isis Labo-Kaberia, autrice martiniquaise dont le premier roman, La prophétie des sœurs serpents, est sorti en 2022. Elle s'est justement spécialisée sur les thèmes de la mémoire, de la décolonisation et de l'histoire afro-caribéenne.
Ce qui est fascinant avec l'identité caribéenne, c'est justement qu'elle est africaine et en même temps, elle est aussi quelque chose de complètement neuf qui s'est reconfiguré, recomposé à partir de mélanges inouïs dans l'histoire de l'humanité, qui ont été d'une violence terrible, mais aussi qui ont donné lieu à la créativité humaine sans précédent, je pense. On a eu 200 peuples africains différents qui ont été déportés en Martinique, donc nous sommes une espèce de projet panafricain avant l'heure, j'ai envie de dire. La mémoire populaire, elle a conservé cette trace des origines africaines dans nos chants, dans nos danses, dans nos traditions culinaires, dans notre spiritualité. On a en fait ces bourgeons d'Afrique qui sont encore très très présents, même quand les gens n'en sont pas forcément conscients, de part et d'autre de l'Atlantique. Se tourner vers les mondes africains, vers les cultures africaines précoloniales, ça peut être très enrichissant pour renouveler la façon de penser le monde, en fait. Donc je trouve ça vraiment fascinant d'explorer cette complexité des identités noires au pluriel.
L'autrice martiniquaise Isis Labo-Kaberia pour refermer notre dossier. On vous parlait hier matin de ce qui était encore une rumeur non officielle autour de la CAN U20 de football. Eh bien, c'est confirmé, elle n'aura pas lieu en Côte d'Ivoire. La Confédération africaine de foot a confirmé le désistement ivoirien en raison de circonstances imprévues. Et c'est donc l'Égypte qui hérite de la patate chaude. Mais conséquence pour les éléphantaux, à l'origine non qualifiés, qui avaient finalement obtenu leur ticket grâce à l'organisation à domicile. Ils sont hors du tournoi désormais, à la grande déception de leur sélectionneur, Younes Zerdouk.
C'est un sentiment qui est mitigé parce qu'en fait, on n'était pas qualifié dès le départ. On a travaillé très très dur pour saisir cette nouvelle opportunité. On a travaillé très 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 dur pour créer un groupe et ça portait ses fruits et on commence à créer quelque chose de magique. Après voilà, c'est comme ça. Si le gouvernement ou l'État s'est retiré, c'est qu'il avait des raisons. Donc ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut se qualifier. Il n'y aurait eu aucun souci. Donc un peu de tristesse, oui, pour les joueurs aussi. Je n'ai pas eu contact avec les joueurs pour l'instant. J'imagine que leur tristesse, leur déception, parce que ce qu'ils ont montré dans les matchs amicaux, où on a gagné 3 matchs sur 4. Donc c'était vraiment de très très bon augure, surtout 3 matchs de suite, quoi. C'est un rêve un petit peu qui s'envole, mais il y a d'autres rêves à aller chercher.
Younes Zerdouk pour refermer notre journal, et on retrouve Julien Coquelle-Rohem.